Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous salue, que ce soit vous qui êtes en salle maintenant, que ce soit vous, mes soeurs et mes frères qui sont à Zoom. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et surtout qu'il ouvre vos oreilles et vos cœurs pour que vous puissiez comprendre et intérioriser le message que vous allez recevoir aujourd'hui. C'est son message. Moi, je ne fais que transmettre son message. Qu'il me soit en aide. Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler de l'amour. L'amour. L'amour, c'est un mot très important pour Dieu. Et l'amour, c'est un mot que nous trouvons plusieurs fois dans la Bible pour montrer que notre vie de chrétien est focalisée sur l'amour. Que ce soit l'amour de Dieu, que ce soit l'amour de notre prochain. Et je voudrais vous rappeler ce qui a été décidé au niveau du comité officiel, que cette année 2025 soit justement consacrée à cet amour, mais plutôt qu'il soit consacré sur des objectifs généraux. Ces objectifs qu'on a voulu que toutes les prédications, toutes les réunions que nous allons avoir puissent être orientées vers ces objectifs, ces objectifs. Qui sont lesquels? Ce sont les objectifs qui sont basés sur le commandement, sur la loi que Dieu nous a donnée. Ces objectifs, c'est de restaurer notre relation avec Dieu et de restaurer notre relation avec les autres, avec nos voisins. Restaurer. Et nous avions vu que restaurer, ça veut dire nous constatons, que Dieu même constate qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les hommes. Et qu'il était temps de revenir à notre premier amour, notre premier amour envers Dieu et notre premier amour envers les hommes. Et nous avions décidé, nous, ça veut dire toute l'Église, nous avions décidé de voir que le texte de base qui va nous guider au cours de cette année-ci, c'est le chapitre de Ésaïe 58. Et que quand nous lisons ce chapitre, Ésaïe 58, nous trouvons qu'il est fait en trois parties. La première partie, à peu près du premier verset au cinquième verset, ça parle de l'amour, de l'amour de Dieu. Et que nous avons vu qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans notre relation entre nous et Dieu. Et nous avons eu des prédications en rapport avec cet amour qui est cassé, avec cette relation qui s'est cassée, et que nous avons ce qu'il faut faire pour rétablir cette relation. Et la deuxième partie nous allons voir aujourd'hui, c'est de voir que, oui, il y a aussi la relation entre nous et les autres. Parce que la parole de Dieu nous demande d'aimer Dieu, et ça, c'est le commandement, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre pensée, de toute notre vie, et d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième commandement, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, ce sont les deux piliers de la loi. Et quand nous parlons de la loi, nous parlons des commandements que Dieu nous a donnés. Et ça, c'est quand vous regardez le verset 6, 5 et 6, et plutôt 6 et 7, vous trouvez ça, ce que Dieu nous dit à propos de notre relation avec les autres et ce qu'il faut faire. Et c'est ça que nous verrons aujourd'hui. Et puis, par après, il y a une troisième partie. Troisième partie qui va du verset 8 jusqu'à la fin, 14, nous parle des conséquences, nous parle des bénéfices, nous parle de l'impact que nous avons à aimer les autres. Quand nous aimons les autres, oui, nous faisons du bien. Mais quand nous aimons les autres aussi, nous avons aussi notre récompense, notre bénéfice. Et c'est ça que nous verrons plus tard. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui est qu'est-ce que nous devons faire pour aimer les autres. C'est pour cela que j'ai intitulé le message d'aujourd'hui de Aimez-vous les uns les autres. Ouvrez vos Bibles en Jean, au Jean chapitre 15, verset 12. Jean 15, verset 12, il dit ceci. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ça, c'est Jésus qui nous dit ça. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi nous avons pris pourquoi j'ai pris ce thème? C'est parce que souvenez-vous la fois passée dans la prédication de notre frère parfait, il nous avait montré que dans notre relation avec Dieu, Dieu n'était pas content de ce que nous faisons. Dieu, oui, quand nous voyons le livre d'Ésaïe 58, nous voyons que dès le début, que Dieu nous aime. Parce qu'il dit à il dit à Ésaïe, va vite, va voir mon peuple, écris très fort, informe-leur que je ne suis pas content du tout, que ce qu'ils sont en train de faire ne me plaise pas. Et il faut qu'ils puissent se corriger. C'est ça que nous lisons dans les premiers versets de ce chapitre. Il dit, va vite, crie très fort. Ça veut dire que Dieu est conscient que son peuple est en train de se perdre et qu'il demande à son prophète d'aller informer pour afin qu'il puisse maintenant restaurer. Donc, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Il dit, je ne suis pas content de ce qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'ils se corrigent. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut restaurer l'amour, non seulement envers Dieu. Et souvenez-vous le message que nous a donné notre frère parfait, il a insisté sur une question que Dieu se posait pour dire, est-ce là la façon de jeûner et qui plaise à moi? Est-ce que ce que vous faites, est-ce que votre comportement, vous croyez que ça me plaît? Est-ce que votre façon de jeûner, vous croyez que ça me plaît? Est-ce que votre façon de vivre avec les autres, vous croyez que ça me plaît? Ça, c'est la question que Dieu se posait. Ça veut dire que Dieu n'était pas content. Dieu n'est pas content de la façon de nous jeûner. Ici, on utilise dans Ésaïe 58, on utilise le mot jeûner. En fait, ce n'est pas seulement dans le jeûne, c'est dans l'ensemble de notre relation avec Dieu. C'est l'ensemble de la prière. C'est l'ensemble de ce que nous faisons avec lui qui ne plaît pas à Dieu. Mais il utilise le mot jeûner pour dire que oui, et il le connaît. Quand nous lisons le verset 2-3, il le connaît pour dire que oui, je reconnais vos efforts. Oui, je vois que vous êtes en train de me chercher de tous vos efforts. Mais, il y a un mais. Mais, il y a quelque chose pour lequel je ne suis pas d'accord. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Votre façon de considérer les autres, votre façon de voir les autres, vous êtes très méchant avec les autres. Vous regardez très mal, vous regardez les autres. Quand vous disiez, vous voyez les mots qu'il va utiliser, je ne reviens pas, pour vous montrer qu'il y a tout un tas de comportements que son peuple a envers vos voisins, envers votre voisin qui ne me plaît pas. Ça, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Et il se posait la question de, est-ce cela que vous appelez le jeûne? On comprend bien qu'il n'est pas content et on comprend bien que la réponse est non, qu'il n'est pas content de la façon. Aujourd'hui, nous allons voir la suite. Aujourd'hui, nous allons lire donc Ésaïe 58, versets 6 à 7. Oui, Ésaïe 58, versets 6 à 7. Verset 6 dit ceci, Ésaïe 58, verset 6, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté. Dans ma Bible, le 8 secondes, en fait, c'est écrit, voici le jeûne qui me plaît. C'est ça que j'aime comme version. Voici le type de jeûne qui me fait. Voici le vrai jeûne qui me plaît. C'est ça qui est écrit dans 8 secondes. Mais c'est la même chose. Mais ici, il dit, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les croix. Je ne sais qui était là-bas. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est comme ça que c'est en 8 secondes. De détacher les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Donne un habit à une personne qui ne l'a pas. Ne te détourne pas ta face de te semblable. Ça, c'est très important, mes amis. Ça, c'est très important parce que ça s'adresse à nous. C'est très important parce que ça nous renvoie ce que nous faisons aux autres. La fois passée, nous avons vu ce que nous devons faire dans le jeûne. Maintenant, c'est Dieu lui-même. Parce que quand nous lisons ce chapitre vers la fin, le dernier verset, il dit que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Nous sommes en train de faire un séminaire sur l'écoute. Et nous savons que Dieu nous parle. Maintenant, ici, Dieu nous parle à travers le prophète Ésaïe. Et il nous dit, voici le vrai jeûne qui me plaît, c'est celui-ci. Le vrai jeûne pour moi, ce n'est pas seulement de venir devant moi et de prier et de demander de faire de doléances et de glorifier Dieu. Ça, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Parce que la loi que je vous ai donnée a deux piliers. La loi que je vous ai donnée a deux dimensions. Il y a une dimension verticale. Qui va vers Dieu pour prier Dieu, pour honorer Dieu, pour glorifier. Mais il y a aussi une dimension horizontale qui va vers les autres. Tu ne peux pas dire que tu es un bon chrétien parce que tu pries, parce que tu honores Dieu, parce que tu vas là au culte tous les dimanches, dans toutes les prières, en ignorant ton voisin, en faisant du mal à ton voisin, en ne venant pas au secours de ton voisin. C'est ça que Dieu nous dit. La loi est claire, il y a deux piliers et ces deux piliers sont indissociables. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le pilier horizontal qui montre notre relation avec les autres. Notre relation avec les autres, nous parlons d'amour. C'est ça que j'ai dit au début. Nous parlons d'amour. Dieu nous dit de détacher les chaînes de la méchanceté. Détacher, ça veut dire couper. Ça veut dire, il ne nous demande pas de diminuer notre méchanceté. Il nous demande de couper la méchanceté. Ça veut dire de ne plus être méchant avec notre voisin. Dénouer les liens de la servitude. Dénouer les liens de la servitude. Nous savons que la servitude, ce n'est pas seulement l'esclavagisme. Ça existe peut-être dans certains pays, mais ceci, cette servitude existe même dans toute société. Chaque fois que tu considères ton voisin comme inférieur, chaque fois que quand tu es plus riche que quelqu'un, tu fais des choses que toi tu ne peux pas faire, ça c'est de la servitude. Renvoie libre les opprimés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout chrétien qui voit quelqu'un qui est en train d'être maltraité, d'être opprimé, et qui se tait, et qui ne fait pas quelque chose, il est complice à cette oppression. Et Dieu ne veut pas ça. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oui, nous sommes peut-être dans un pays riche, mais il y a beaucoup de gens qui meurent de faim ici. Peut-être qu'ils ne meurent pas de faim pour les intérêts, mais des gens qui n'ont pas de quoi manger, hein, qui vous demandent dans la rue, à la sortie du métro, quelques pièces. Et quand vous entendez ce qu'il dit, donne-moi des pièces. Est-ce que tu n'as pas de pièces pour manger? C'est ça qu'ils nous demandent. Et des fois, nous fermons les oreilles ou nous regardons à côté pour ne pas les écouter. Fais entrer dans ta maison les malheureux qui sont sans asile. Donne un habit à une personne qui ne l'a pas. Et surtout, ne te tourne pas de ton semblable. Et c'est ce que la majorité d'entre nous voit. Vous voyez quelqu'un, vous voyez qu'il va vous demander quelque chose, au lieu de le fixer, vous regardez à côté pour ne pas entendre ce qu'il va te dire. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Dieu nous dit que ce que nous faisons à notre semblable, lui aussi, au dernier jour, il va faire la même chose pour nous. Ça, c'est le message d'aujourd'hui, mes amis. C'est le message nous de voir que nous sommes des humains, nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons le devoir de partager ce que nous avons avec les autres. N'oublions pas ce que Dieu nous dit. Il nous dit, tu es ce que tu as fait. Il dit, il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu. Ça veut dire que tout ce que nous l'avons reçu de Dieu et que nous avons le devoir de partager avec les autres. C'est ça le message d'aujourd'hui qui nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton voisin a le même droit que toi. Ça veut dire que quand toi as quelque chose, tu as aussi le devoir de donner aux autres. Nous verrons plus tard quelques détails concernant cette façon d'aimer notre prochain. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est de savoir, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous pose cette question de aimez-vous les uns les autres? Pourquoi Dieu nous pose cette question? La première question, la première réponse que nous pouvons donner, c'est que Dieu, en fait, ne me voit pas comme individu en toi. Ne me voit pas comme individu, ne te voit pas comme individu. Dieu nous a créés tous à son image. Nous sommes tous ses enfants. Dieu ne voit pas que tu es noir, que tu es blanc, que tu es riche, que tu es pauvre, que tu es de l'Amérique, que tu es un Africain. Ce n'est pas ça, lui. Lui, nous sommes tous ses enfants. Et en nous créant, il a mis aussi des ressources à notre disposition. Ça veut dire que nous sommes ses enfants. Il a beaucoup de ressources dans son monde et ces ressources peuvent suffire à son monde. Le problème, c'est le partage que nous faisons. Donc, ça veut dire que nous sommes tous ses enfants et quand un des enfants fait du mal à l'autre, Dieu n'est pas content. Vous êtes des parents. Quand vous aimez tous vos enfants de la même façon, quand vous voyez qu'un enfant est en train de maltraiter son frère, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content et vous réagissez. C'est la même chose pour Dieu. Lui aussi, quand il voit que tu as quelque chose de plus que l'autre, tu as un malheureux devant toi que tu peux aider, tu vois que quelqu'un est maltraité, tu ne fais rien, Dieu n'est pas content. C'est pour cela que Dieu aime ton prochain comme toi-même. Une autre raison qui nous dit pourquoi on doit se poser la question, aime ton prochain comme toi-même, mais c'est la loi. C'est la loi, c'est le commandement. Hein? Dieu nous l'a dit, nous l'avons dit au début, aime ton prochain comme toi-même. Et nous verrons plus tard d'ailleurs qu'il a dans ce même verset, Jean 15, 12, le verset 13 dit plus que ça. Le verset 15 dit que aime ton prochain comme toi-même, comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Nous verrons que cette ajoute qu'il a ajoutée, ça augmente notre attitude, que ça nous met la barre très haut. Aimer son prochain comme nous-mêmes, c'est peut-être facile. Mais aimer mon prochain comme Jésus m'a aimé, nous allons voir que c'est encore plus difficile parce que je ne suis pas Jésus. Mais ma vie de chrétien, c'est de voir, c'est d'imiter Jésus, c'est d'essayer de voir ce que Jésus a fait et que moi aussi, que je puisse le faire aussi sur cette terre. Nous savons que dans notre Église, l'Église méthodiste est libre, le mot sanctification, ça a beaucoup de sens. Ça, c'est un des piliers de notre Église. Et dans la sanctification, c'est là où nous voyons que cette imitation, cette volonté de voir que notre modèle est Jésus et que nous devons l'imiter à tout prix. Nous sommes toujours dans le pourquoi. Et l'autre raison, c'est que je vous prie de lire Jean 13, 35, oui, c'est ce que je viens de dire. Jean 13, voilà ce que lui nous dit. Donc, Jean 13, 35 dit ceci. Je commence par le 34. Je vous donne donc un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. En fait, quand il dit oui et il répète, c'est pour renforcer son message, pour dire, je vous ordonne Je vous ordonne à vous aimer les uns les autres. Le verset 35, c'est très intéressant ce qu'il écrit. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dans ce qu'ils sont en train de lire, le 8 secondes, je crois qu'il y a un mot qu'il a ajouté qui montrait que l'amour est la marque distinctive de tous les chrétiens. Tu ne peux pas être chrétien sans amour. Ça, ce n'est pas possible. L'amour, c'est notre marque distinctive. Quand tu vois un chrétien, tu t'attends à ce qu'il y ait l'amour pour son voisin. S'il ne l'a pas, ce n'est pas un bon chrétien. Et autre chose, ça c'est très important, ce que nous voyons en dernier lieu, c'est que quand en faisant bien pour les autres, nous faisons aussi bien pour nous. Et c'est ça que nous verrons peut-être la prochaine fois. En faisant du bien pour les autres, en aidant mon prochain, en donnant à manger à mon prochain, en donnant un asile à mon prochain, en protégeant mon prochain qui a tenté d'être maltraité, en fait, je fais du bien aussi pour nous. Parce que la Bible nous dit ceci. Jésus dit, chaque fois que vous avez fait ceci pour mon frère, chaque fois que vous avez donné à manger à mon frère, chaque fois que vous avez hébergé mon frère, chaque fois que vous avez fait du bien à mon frère, c'est à moi que vous l'avez fait. Et alors, nous aurons une récompense. Et nous verrons la prochaine fois que Dieu nous promet que quand nous faisons du bien à notre frère, quand nous aimons notre frère, quand nous avons des marques ou des réactions d'amitié, d'empathie à notre frère, à notre voisin, en fait, nous tirons des profits pour nous, mais aussi pour nous. Non seulement ça fait du bien pour mon voisin, mais aussi ça me tire de la bénédiction de Dieu pour l'avenir. Non seulement à la fin du monde, comme la Bible nous le dit dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi même maintenant, même dans la vie ici de tous les jours, je suis béni. Donc, pour montrer que nous avons avantage à faire du bien à aimer notre prochain, non seulement parce que ça fait du bien, donc ça donne du bonheur à notre voisin, mais aussi ça nous profite à nous aussi. Une autre question que nous pouvons nous poser, c'est de comment. Comment est-ce que moi, chrétien, je peux faire du bien à mon voisin? Je crois que nous l'avons vu, ce que Dieu nous demande de faire dans notre attitude envers notre voisin, dans notre travail, envers ses problèmes, envers ses besoins. Mais nous savons aussi que, mais la Bible nous dit aussi que faire du bien à toute personne que nous côtoyons, c'est ça que Dieu nous demande de faire. Dieu ne nous demande pas d'aimer notre frère, notre soeur de famille, notre père ou notre mère. Dieu ne nous demande pas d'aimer seulement un collègue de travail ou quelqu'un qui est pris dans l'église de Saint-Harry. Il demande de faire plus que ça, d'aimer toute autre personne, parce que c'est toute autre personne que même je ne connais pas, est aussi un enfant de Dieu et qu'il a aussi le même respect que moi. Donc, quand nous lisons dans Matthieu 5, verset 44, parfait, est-ce que tu peux nous lire ça? Matthieu 5, 44 à 48. On va voir ce qu'il dit, parce que quelquefois c'est difficile d'intérioriser ce qu'on dit dans ce Matthieu 5, verset 44 à 48.
Matthieu 5, 44 à 48. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen.
Merci beaucoup. Vous voyez qu'en fait, que la barre est vraiment mise très haut. Parce qu'on s'attendait que Dieu nous dise, nous demande d'aimer notre prochain. Oui, notre prochain, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon mari, ou c'est mon frère, ou c'est quelqu'un que je connais. Mais ce n'est pas ça. Bon, c'est ça aussi, parce que c'est mon prochain. Mais Dieu nous demande d'étendre le champ, mon champ d'action, et de l'étendre partout. Ça veut dire, mon prochain, c'est toute personne que je rencontre, toute personne que je rencontre, que je reconnaisse, qu'il soit mon ami ou mon ennemi, qu'il soit cette personne que je rencontre, c'est l'enfant de Dieu comme moi, j'ai le devoir de faire quelque chose pour lui. C'est ça que Dieu nous demande. Mais ce qui est difficile ici, c'est qu'il nous demande d'aimer nos ennemis. Et c'est que quand tu as fait du mal, quelqu'un qui a voulu te tuer. Quelqu'un qui a pris ton argent, quelqu'un qui a pris ta voiture, quelqu'un qui a pris ta femme ou ton mari, est-ce que tu vas l'aimer? Quand je vois pas de, quand je vois pas de réponse de votre réaction, ça montre que c'est très difficile. C'est très difficile. Pour nous montrer que Dieu ne nous demande pas seulement de faire des choses seulement faciles. Sinon, Dieu nous demande aussi de faire des choses très difficiles. Parce que n'oubliez pas ce que nous avons vu avant. L'amour, c'est le signe distinctif du chrétien. Est-ce que tu es un chrétien, oui ou non? Si tu n'es pas chrétien, oui, ça c'est ton problème. Mais si tu es chrétien, l'amour, c'est un signe qui te distingue. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es plus un chrétien. Mais dans l'amour, il y a tout ce qu'on vient de nous lire. Ça veut dire aimer ton ennemi, aimer quelqu'un qui te harcèle. Aimer quelqu'un qui te fait du mal, tu as le droit aussi de l'aimer. Et quand on continue de lire de ce livre, on verra que Dieu nous dit, ce que je te demande, c'est aimer ton prochain. Fais ce que je te dis. Moi, si tu le fais, je te bénis. Mais si ce méchant-là, si cette personne-là continue à être méchant envers toi, ça, ce n'est pas ton problème. Ça, je m'en charge. Parce que si tu continues à le faire, c'est comme si du charbon chaud qui s'entraîne sur son corps. Donc, ça, ce n'est pas ton problème. Mais toi, je te demande, fais du bien. Fais du bien autour de toi. Et ce que nous disons ici, à notre église de Saint-Henri, et ceci, ce qui va pour d'autres églises, nous voulons dire que nous sommes une église de chrétiens, doit être un foyer de lumière. Un foyer de lumière, ça veut dire que nous devons être différents des autres dans le sens du bien, de faire du bien. Et que les autres qui nous voient, s'ils voient cet amour, s'ils voient cette lumière qui sort de Saint-Henri, ils vont se dire, ah, ça, ce sont des chrétiens. Est-ce que les gens le disent? Est-ce que c'est ça que les chrétiens répandent comme respect, comme admiration? D'autres personnes qui ne sont pas des chrétiens qui nous voient. Ah, quand je vois cette personne, comment elle se comporte envers les autres, il a beaucoup de signes d'amitié envers les autres. Donc, c'est un vrai chrétien. Et nous devons, je ne sais pas, nous n'avons pas encore ça, mais nous devons tendre vers ça. Ça, ça doit être notre objectif de vie, de faire en sorte que les gens qui nous voient, par nos réactions, nos actes, nos paroles, puissent dire, ah, ça c'est un bon chrétien. Parce qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et nous sommes toujours dans le commun. Donc, vous voyez que Dieu nous demande d'aimer tout le monde, sans distinction. Aimer notre prochain comme nous-mêmes nous demande d'avoir un degré d'empathie très élevé. D'empathie très élevé, de voir que la personne qui est ici, il est en train de mendier, il est en train de boiter parce que c'est un film, il est en train de malade parce qu'il n'a pas de médicaments pour se faire soigner, il est là parce qu'il a faim, il n'a pas de quoi manger. Cette personne, c'est moi. C'est comme mon image à miroir. C'est moi. Moi aussi, je peux être comme lui. Il est dans le besoin. Moi, je ne suis pas dans le besoin. En l'aidant, je m'aide. parce que c'est une personne que, comme moi et que je dois aider. Ici, je voudrais vous faire un petit témoignage concernant moi-même. Il y a très longtemps, il y a plus de 50 ans, j'étais à la fin de mes jeunes écoliers de l'école secondaire et je rentrais des vacances. Et à ce moment-là, dans mon pays, il n'avait pas assez de moyens de locomotion, pas de bus. Les routes étaient de très mauvais état. On voyageait dans des camions, il n'y avait pas de bus à l'époque. Et vous comprenez que des bus, plutôt des camions, tombaient en panne. Et des fois, on pouvait faire 2 jours sur la route en attendant qu'on puisse réparer le camion pour que vous puissiez rentrer. Je pense que je n'étais pas le seul. Il y a beaucoup de pays africains à cette époque qui étaient dans cet état. Et un jour, rentrant des vacances, plutôt pour les vacances, mon autre camion est tombé en panne. Et puis, nous avons traîné. Et puis, finalement, le camion était dans un état où on ne pouvait pas le réparer parce que le mécanicien est venu, il n'a pas pu le réparer. Et nous avons demandé de continuer à pied. Parce que c'était la seule possibilité. Et en continuant à pied, si je vous raconte, c'était la nuit tombée et il y avait un séminaire tout près. Moi, je me suis dit, ah, il fait nuit, le séminaire des catholiques. Je vais frapper à la porte. De toute façon, le séminaire, c'est pour les chrétiens. Les chrétiens, ils vont certainement mourir. Et puis, je suis allé. J'ai toqué, moi j'ai entré. Il y avait une religieuse, qui était gérante. Il m'a laissé entrer. Il m'a très bien accueilli. Il m'a donné à manger. Il m'a donné une chambre. Je me suis couché. Comme j'étais fatigué, tout de suite, je me suis endormi. Jusqu'à maintenant, ça va, hein? N'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. Mais par après, j'entends quelqu'un qui toque à ma porte de ma chambre. Et c'était le père directeur du séminaire. Qui est venu, qui on lui a dit qu'il y avait un petit garçon d'une école secondaire qui est venu pour la loger. Il est venu me demander, mais vous dites, de quelle école es-tu? Je donne le nom de mon école, de mon collège, mais c'était un collège protestant. Et à cette époque, protestant catholique dans mon pays, la barrière, c'était plus que le mur de Berlin. Donc, alors, il me dit, quoi? Parce que le fils qui a prononcé le nom, parce qu'il n'avait pas, il n'y avait pas assez de collèges à cette époque, il était peut-être 10 dans tout le pays. Et il me dit, mais toi, un protestant qui vient loger au séminaire catholique, ça, c'est impensable. C'était pendant la nuit. Il dit, lève-toi. Il dit, pour aller où? Mais lève-toi, ça c'est le séminaire, c'est pas pour les protestants. Alors je me lève, prends tes affaires. Et puis, il me met dans sa voiture, il m'a pas conduit, il m'a jeté tout près d'une il y avait une auberge, on n'est pas des religieuses, peut-être à 3 ou 5 km. Et puis, il me jette là-bas, il dit, débrouille-toi. C'était pendant la nuit. Bon, pourquoi est-ce que maintenant, à mon âge, je me rappelle de cet incident? Parce que c'est inoubliable. C'est inoubliable que une personne, en plus, en nom de Dieu, puisse faire un acte pareil. Hein? Ça, c'est le manque d'amour. Ça, c'est le manque d'amour de la part de cette personne. Et heureusement, les religieuses m'ont accueilli, ils m'ont hébergé, mais tout le monde a condamné ce prêtre, directeur du séminaire. Pour faire un geste comme ça de haine. Comment est-ce que tu peux haïr quelqu'un que tu ne connais pas? Il ne me connaissait pas. Malheureusement, c'était pendant la nuit. Je ne peux même pas retenir son visage. Peut-être que par après, je pourrais voir, toi, tu m'as fait du mal quand j'étais tout petit. J'étais tout petit, j'étais à l'école secondaire. Ça, c'est un exemple de manque d'amour. Mais nous avons aussi le manque d'amour envers notre prochain. Mais vous connaissez notre bon exemple de, oui, d'amour de notre prochain. C'est le cas du bon samaritain et ce qu'il a fait. Le bon samaritain ne connaissait pas la personne qui était blessée, qu'il rencontrait sur la rue, et qu'il s'est arrêté, il a passé ses plaies, il l'a amené dans une belge pour dans un hôtel, et puis il a soigné, il a donné tous les soins, alors qu'il ne le connaissait pas. Ça, c'est comme ça que nous devons agir. pas comme le prêtre du mois séminaire, du séminaire, mais comme le bon samaritain. Nous sommes toujours dans le comment. Et aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés, et c'est là où je disais que c'est difficile. Parce que Dieu nous demande, je peux peut-être lire le Jean 15, toujours nous sommes dans Jean 15, Jean 15, 12, je répète le 12, voici quel est mon commandement, nous sommes dans le 12, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, c'est ça que nous sommes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est le verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça que Dieu a fait. Jésus nous a donné un message, aimez-vous les uns les autres, comme ce n'était pas assez, comme moi aussi je vous ai aimé. Ça veut dire que, oui, quand vous aimez, quand vous êtes un chrétien, votre frère, vous devez l'aimer jusqu'à même à perdre votre vie. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour vous. C'est ce que j'ai fait. C'est Jésus qui dit, moi, je vous ai tellement aimé que je vais même donner ma vie pour vous. La question que on peut se poser, est-ce que nous, humains, nous devons aller jusqu'à mourir pour les autres? Est-ce que c'est faisable? Moi, je vous dis que c'est faisable. Je vous dis que c'est faisable. Je vous donne encore un exemple. Mon pays, c'est le Rwanda. Vous connaissez ce qui s'est passé en 1994, il y a eu le génocide. Pendant le génocide, il y a des gens qui sont morts pour les autres, par amour. Parce qu'il y a des gens qui ont caché les autres, les voisins, dans les maisons, en sachant que si on entre dans la maison et qu'on trouve les personnes qu'on voulait tuer, on devait tuer aussi la personne qui les a gardées. Beaucoup de gens l'ont fait. C'est pour cela que nous avons des survivants chez nous. Parce qu'il y a des personnes qui ont été protégées par les autres. Et je connais quelqu'un, un ami, qui a été à l'école de avec moi, qu'on a tué parce qu'il avait caché des personnes qu'on voulait tuer dans sa maison et il avait dit qu'il n'en a pas. Ils sont venus, ils ont fouillé la maison, ils ont trouvé en dessous des lits, non seulement ils ont tué, mais lui aussi a été tué. Donc, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres qu'on a tués parce qu'ils avaient osé protéger les autres. Et je connais une directrice d'une école secondaire aussi. On est arrêté dans l'école, on voulait tuer ses élèves. Il a dit non, 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 non. Vous ne tuerez pas mes élèves avant de me tuer moi-même. Je préfère mourir avec elle au lieu que de vouloir tuer mes élèves. Vous voyez que ça existe, c'est rare, mais ça existe que des gens peuvent aimer les autres jusqu'à accepter de mourir pour eux. Je voudrais pour terminer, entrer dans une réflexion avec vous, en vous disant que Dieu n'est pas content quand nous disons que nous l'aimons, alors qu'au même instant, nous négligeons les autres. Il ne peut pas exaucer nos doléances dans ces conditions. C'est ce que nous trouvons dans ce chapitre d'Isaïe 58, qui montrait que Dieu qui dit, oui, je reconnais que vous me recherchez, je reconnais que vous priez, je reconnais que même vous jeûnez, mais la façon que vous le faites, ça ne me plaît pas, et c'est pour cela que je ne réponds pas à vos doléances. Et ceci me rappelle aussi ailleurs dans la Bible, il dit, vous priez, si vous priez tous les jours et que vous ne recevez pas de réponse, c'est parce que votre façon de prier ne me plaît pas. C'est parce que vous priez mal. Ceci nous montre que Dieu nous exauce en fonction de ce que nous avons fait. Il ne nous exauce pas parce que nous avons fait beaucoup de prières, parce que nous prions tous les jours. Il nous exauce aussi parce que nous aussi, nous avons joué notre rôle. Et notre rôle, c'est de aimer notre prochain. Parce que nous avons un devoir, le devoir de nous aussi de faire quelque chose. Et d'aimer notre prochain. Nous nous soulignons encore que les deux principaux commandements que Dieu nous a donnés sont intimement liés. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ça, nous l'avons aussi dans ce livre d'Ésaïe qui nous montrait que il reconnaît que son peuple fait des efforts pour prier, mais que tant qu'il ne faut pas quelque chose pour les autres, lui aussi ne peut pas les, ne peut pas les, ne peut pas exaucer les prières. Ça veut dire que nous avons avantage à le faire si nous voulons réellement que Dieu nous réponde. Et ceci nous amène à nous poser des questions quelquefois quand nous disons que nous prions pour quelque chose. On attend souvent des gens de dire, et aussi je suis parmi ces gens-là, de voir que oui, j'ai prié pour ceci depuis très longtemps et je n'ai pas de réponse. Des fois, de nous poser des questions, de savoir est-ce que ce que je suis en train de faire comme prière, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de manquement de mon côté? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois corriger de mon côté pour que Dieu puisse m'écouter et m'exaucer? Et ceci, le message d'aujourd'hui, donc, nous pose, nous amène nous aussi à ne pas toujours à mettre la faute à Dieu. Il n'a pas fait la perfection ceci et de voir. Est-ce que ça ne vient pas de moi? Et de voir la façon de faire. Et tout ce que tu fais ou tout ce que tu es, si important soit-il, sans l'amour de ton prochain, n'a aucune valeur. Ouais. Parfait, encore une fois, je t'en prie. Est-ce que tu peux nourrir 1 Corinthiens 13? 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Hein? Pour nous montrer que oui, tu peux avoir beaucoup de dons, beaucoup de chance, beaucoup de... mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. 1 Corinthiens 13, 1 à 8.
1 Corinthiens 13, 1 à 8.
Ouais.
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. À huit, hein?
Oui, à vite.
Amen.
Merci beaucoup. Je crois que je voulais terminer par cette inscription de Paul et pour dire que oui, tu peux avoir beaucoup de dons, parce que si on parle de dons, tu peux avoir beaucoup de dons. Tu peux être prophète, tu peux parler des langues, tu peux faire des miracles même. Tu peux même être persécuté pour Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais de tout ça, si tu n'as pas d'amour en toi, et quand on parle d'amour, on parle d'amour pour notre prochain, si tu n'as pas d'amour, mon ami, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être persécuté pour Jésus et... Cet acte que tu as fait peut ne pas te sauver avec Dieu parce que tu n'as pas d'amour, parce que tu manques l'essentiel. Nous avons dit que l'amour, c'est l'acte, c'est le cachet d'un bon chrétien. Donc, hein, quand nous avons vu dans Ésaïe, dans la première partie, dans la mauvaise façon de gêner que nous avons vu le mot hypocrisie. Hein? Si ce que tu fais, c'est pour te faire montrer aux autres que tu es ceci, que tu es un bon chrétien, que tu fais ça, que tu, oui, que tu as des dons, que tu es extraordinaire. Non, 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 non. Si tu n'as pas d'amour, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Hein? Je souligne encore que le mot amour pour Dieu, c'est, je veux pas dire le seul, mais quand vous l'avez, ça vous donne accès à toute autre bonne chose que nous avons vue. Donc, je ne répète pas ce que nous avons lu, que tout ceci, ce que tu es, ce que tu peux faire, des miracles que tu peux faire, si tu n'as pas d'amour pour Dieu, ça ne vaut rien. L'amour de ton prochain, c'est notre message d'aujourd'hui. Alors, je vais terminer par un petit passage de Colossiens. Colossiens. Colossiens 3, versets 12 à 13. Je le lis. Verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout, de tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Voilà. Ça, c'est ma conclusion. Ça, c'est ma conclusion pour vous dire, c'est une exhortation de Paul, mais aussi qui est adressée à vous, qui montre que votre façon de vivre, c'est armez-vous de patience, d'amour, de respect, d'empathie pour votre voisin. C'est comme ça que Dieu va vous voir comme son enfant, Dieu va vous voir comme son partenaire, et ce que Dieu aussi va faire, exaucer toutes les demandes, toutes les prières que vous allez lui adresser. Comme ce chapitre de 50, tu parlais du jeûne, la question que nous pouvons nous poser à la fin de cette prédication est de ceci. Dieu nous avait dit, et c'est cela que vous appelez le jeûne. Je prends plaisir. Nous nous prions tous les jours. Nous nous gênons tous les jours. Nous avons vu ce au vrai jeûne. Dieu nous pose toujours la même question. Est-ce seul ce que tu fais, toi qui m'écoutes, que ce soit en présentiel ou en Zoom, est-ce que tu fais, tu crois que c'est ça qui me plaît? Est-ce la façon que tu prends ton voisin? Tu penses que c'est cette façon-là qui me plaît? Si tu as bien suivi le message que nous avons vu, à toi de t'évaluer et de voir où se trouvent des failles, et de voir où il y a des choses à corriger pour que tu répondes à cette question. N'oubliez pas que l'objectif est de dire, de voir comment nous devons restaurer notre relation envers les autres. Je vous exhorte, mes amis, à partir d'aujourd'hui, de tenir compte de ce message, de voir qu'il y a des choses que nous ne faisons pas bien et pour lesquelles Dieu n'est pas content sur la façon dont nous traitons les autres. Et nous devons restaurer, nous devons rétablir, nous devons corriger notre comportement envers les autres pour que nous soyons aussi considérés par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Amen.